Les coqs chantent et jour pareil, tous ces debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Oui, bonjour, c'est Monsieur Traoré.
Oh, bonjour, moi je m'appelle Valentin Brochard, je suis chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire au CCFD Terre Solidaire. Le CCFD Terre Solidaire, c'est la première ONG de développement en France qui a notamment pour mandat de lutter contre la faim. C'est une ONG qui opère partout dans le monde et qui opère principalement par subsidiarité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de programme propre, on renforce en fait les capacités, on vient en soutien à tout ce qui est organisation de producteurs, organisation paysanne et société civile dans tous les pays du Sud.
Le rapport des Nations Unies sur l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde a été publié le 13 juillet dernier. Les chiffres sont accablants. Pour mieux suivre ce qui va être dit dans cette émission, il faut avoir en tête que près de la moitié des habitants du monde ne peuvent pas se nourrir convenablement. 690 millions d'individus ont été sous-alimentés, soit près de 9% de la population mondiale, et plus de 2 milliards ont souffert d'insécurité alimentaire en 2019. Cause de pandémie de COVID-19, de confinement et de déconfinement accompagné de mesures barrières, c'est au téléphone que nous avons parlé de cette situation alimentaire mondiale avec Valentin Brochard, qui est chargé du plaidoyer souveraineté alimentaire de l'ONG internationale CCFD Terre Solidaire. Précisons que la doctrine de cette ONG, c'est de ne pas agir à la place des acteurs locaux. Elle soutient donc plus de 500 acteurs dans 71 pays dans le monde, soit environ 2,2 millions de bénéficiaires.
Concrètement, c'est un de nos cœurs d'action, effectivement, c'est la lutte contre la faim. Et donc, du coup, par exemple, on va soutenir des organisations de producteurs à pérenniser leur production agricole, à reproduire leurs semences, à adopter des pratiques agricoles qui sont mieux adaptées, par exemple, à la lutte contre les dérèglements climatiques. À chaque fois, en fait, on répond à une demande des populations locales. Dans le cas de la lutte contre la faim, c'est des organisations de producteurs ou des syndicats agricoles qui nous disent, écoutez, on a un problème sur tel type de plantation, tel type de spécificité. On aimerait mettre en place ceci ou cela, mais on a besoin d'un soutien logistique ou financier pour ce faire. Du coup, nous, notre but, c'est d'apporter de ce soutien, mais aussi de les mettre en lien avec d'autres organisations qui font ce même type de pratique et qui opèrent ce même type de changement.
Ah, c'est pour ça qu'on vous voit soutenir, par exemple, les femmes dans le maraîchage.
Exactement. Les femmes, c'est les premières victimes de la faim dans le monde, elles sont affectées de manière assez disproportionnée. Et donc du coup, c'est clair qu'elles font partie en fait des groupements qu'on soutient, notamment dans le maraîchage, dans les jardins de la santé, dans toutes les pratiques de diversification de la production agricole, etc., etc.
Vous vous doutez bien que je vais vous demander de nous expliquer ça. Quand vous dites que les femmes sont les premières victimes, qu'est-ce que je dois comprendre ?
C'est-à-dire que généralement, la faim, c'est principalement un problème d'injustice, un problème d'inégalité économique et d'accès financier, en fait, à une alimentation qui est saine et qui est diversifiée. Et malheureusement, à travail égal, généralement, les femmes perçoivent un salaire qui est moindre et ont un pouvoir de décision économique, mais aussi social, qui est moindre par rapport à celui des hommes à statut et travail égal. Donc du coup, en période de crise ou en période de restriction des budgets, ce sont les premières victimes.
Ça veut dire que déjà, en situation normale, qu'on pourrait qualifier de normale, elles sont défavorisées. Et si une crise intervient, le cas s'aggrave plus.
Exactement. Ce qu'on appelle en fait l'adaptation de stratégie de survie en période de crise, les ménages, qu'ils soient urbains ou agricoles, puisent dans les réserves économiques ou s'ils sont agriculteurs, par exemple, vont consommer des semences ou les vaches reproductrices. Et généralement, en fait, dans la distribution de cette nouvelle manne financière ou alimentaire, les femmes sont plus lésées que les hommes.
D'accord.
Thank you.
Et moi, je vous ai appelé pour parler du rapport des Nations Unies sur l'insécurité alimentaire dans le monde.
Oui, c'est un rapport qui sort chaque année. Depuis de nombreuses années, il est produit par 5 agences des Nations Unies. Donc c'est pas juste une poignée d'experts qui, dans leur coin, produisent un rapport, c'est vraiment un consensus international avec tout le savoir-faire et la compréhension scientifique et opérationnelle des Nations Unies qui aboutissent à ce rapport. Les 5 agences, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, la FAO qui est l'Organisation de l'Agriculture et de l'Alimentation, le Programme Alimentaire Mondial, le Fonds Agricole International et UNICEF. Et donc du coup, chaque année, ce rapport, en fait, il fait l'état des lieux de la faim dans le monde et il constate, année après année, depuis 5 ans maintenant, une augmentation progressive et structurelle de la faim dans le monde.
Qu'est-ce que vous appelez sous-alimenté ?
Alors, la sous-alimentation, c'est un indicateur, en fait, de calcul de la faim. Un indicateur, c'est un calcul du nombre de kilocalories par jour qu'un individu ingère. En gros, il y a un seuil de kilocalories par jour qui est défini comme un standard international en dessous duquel on est sous-alimenté. En fait, en dessous de ce seuil de kilocalories, notre vie est en danger. Concrètement, ce seuil de kilocalories nous permet de survivre. Le deuxième indicateur que j'ai mentionné, c'était l'indicateur de la sécurité alimentaire. Alors en fait, la sécurité alimentaire, elle est calculée si un individu n'a pas accès à un moment de l'année, de manière régulière, à une alimentation en fait qui est saine, qui est nutritive et qui est équilibrée, on considère qu'il est à un moment donné en état d'insécurité alimentaire. Le problème de la faim dans le monde, de l'insécurité dans le monde, actuellement, ce n'est pas un problème au niveau mondial en fait de production. On produit suffisamment à l'échelon mondial, et ce rapport le souligne grandement, on produit suffisamment pour nourrir la population. On produit même suffisamment à l'échelon mondial pour nourrir les projections démographiques de 2050 qui sont de 9 milliards d'individus. Le problème actuellement de la faim dans le monde, c'est un problème de répartition économique, c'est un problème d'inégalité. Et tout le rapport de cette année, en fait, se concentre sur ce problème d'inégalité et dit que la faim, concrètement, c'est pas un problème de production, c'est un problème d'accès financier. Si les gens ont faim, c'est qu'ils sont pas en mesure, en fait, d'avoir un régime alimentaire qui est suffisamment sain et diversifié parce qu'ils n'ont pas les revenus nécessaires pour le faire.
Certains experts considèrent la faim dans le monde comme une accumulation d'injustices et ils citent comme preuve les producteurs et les travailleurs alimentaires eux-mêmes. Ce sont ces acteurs qui produisent la nourriture, mais au final, ils sont incapables de subvenir correctement à leurs besoins économiques et ils représentent plus de 50% des personnes souffrant de la faim dans le monde. Et lorsqu'il y a augmentation des prix des denrées alimentaires, les populations les plus pauvres et les plus vulnérables seront en première ligne car elles ne peuvent pas faire face.
Un grand constat du rapport, c'est que plus l'alimentation est nutritive et saine, quel que soit le pays, en fait, plus la nourriture est nutritive, plus elle est saine, plus elle va être chère. En moyenne, il y a 3 milliards de personnes sur la planète qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement et d'avoir accès à un régime alimentaire sain, même le régime alimentaire le moins cher. Et il y a 1,5 milliard de personnes sur la planète qui ne sont pas en mesure de se fournir l'alimentation, juste l'alimentation de base qui couvrait leurs besoins nutritifs. Donc du coup, c'est vraiment catastrophique.
Déjà, vous nous faites peur, mais moi, je vais encore insister. Ça fait 5 années consécutivement que la situation se dégrade. Qu'est-ce qui explique ça ?
En fait, chaque année, le rapport sur l'état de l'insécurité alimentaire, il explore une cause de la faim dans le monde. Il y a 3 ans, c'était la généralisation des conflits. Il y a 2 ans, c'était les impacts des dérèglements climatiques. L'an dernier, c'était tout ce qui était dépendance des agriculteurs aux marchés internationaux et vulnérabilité aux chocs économiques. Et cette année, c'est sur tout ce qui est incapacité financière, en fait, à se procurer une alimentation saine et diversifiée. Ce sont les 4 causes actuellement. Donc, conflits, dérèglements climatiques, chocs économiques et pauvreté, inégalité mondiale, qui explique la généralisation et la hausse de la faim dans le monde. Et ce sont des chiffres qui malheureusement vont aller en s'empirant. Le rapport, il fait une projection d'ici à 2030 et il dit que d'ici à 2030, en suivant en fait cette évolution structurelle, vers un scénario qui nous mène à 840 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde. Et ça, c'est sans prendre en compte en fait les problèmes conjoncturels et les crises alimentaires. Rien qu'avec les impacts sociaux et économiques de la crise du Covid-19, on sait qu'on a entre 83 et 132 millions de personnes supplémentaires qui seront sous-alimentés juste l'an prochain.
Et pourquoi ?
Parce que concrètement, il faut comprendre que cette crise du Covid-19, elle va jouer comme un amplificateur, en fait, des inégalités et du faible pouvoir d'achat des populations les plus vulnérables et les plus pauvres. On a une grande partie de la population mondiale qui dépend d'un revenu journalier pour vivre. Avec le confinement, avec les perturbations de l'économie mondiale, ce sont des millions de personnes, en fait, qui ont perdu leur emploi et qui sont plus en mesure de se nourrir convenablement. C'est aussi avec le confinement, tout ce qui va être centre de distribution alimentaire et écoles qui vont être fermés, qui sont autant de sources d'alimentation, en fait, généralement utilisée par les plus démunis. Globalement, en fait, les impacts du Covid-19, ça va déstabiliser toutes les chaînes de production alimentaire et production agricole qui font que les populations les plus pauvres vont avoir moins accès à une alimentation à un prix correctement abordable.
Donc, en situation habituelle, 690 millions d'individus sont sous-alimentés et plus de 2 milliards ont souffert d'insécurité alimentaire. Là-dessus viennent se greffer les effets des mesures barrières édictées par les différents gouvernements pour freiner l'expansion de la pandémie de Covid-19. Fermeture des marchés, interdiction des circulations, donc des transports des produits alimentaires. Tout cela a un impact et ce sont les plus démunis qui en souffrent le plus.
En fait, ce qu'on remarque, nous, au niveau de nos partenaires au CCFD Terre Solidaire par rapport au Covid-19, c'est qu'il y a trois problèmes. Le premier, c'est un problème d'accessibilité physique, en fait, aux sources de vente. Concrètement, ce sont des paysans qui voient leurs plantations pourrir en terre ou pourrir sur les arbres parce qu'à cause du confinement, ils sont plus en mesure d'amener leur production sur les marchés. La deuxième, c'est un accès financier. Ce sont des individus, des ménages qui ont perdu, en fait, leur travail à cause du confinement ou des suites du confinement et qui, du coup, sont plus en mesure de nourrir correctement leur famille. Et la troisième, c'est une question de prix. Comme il y a moins d'aliments sur les marchés, d'aliments locaux, et que les ménages ont moins, en fait, de revenus pour s'alimenter, on a mécaniquement, en fait, une hausse de certains des prix des denrées alimentaires. Alors que l'alimentation est moins présente, que les gens ont moins d'argent pour se le faire, les aliments, paradoxalement, sont plus chers.
On a vu aussi qu'il y a certains pays, et ça c'est au niveau international, qui vont bloquer leurs exportations de denrées alimentaires, et forcément ça aura un impact ailleurs.
Oui, forcément. Concrètement, ce sont autant de pays qui vont dire « je vais nourrir ma population nationale en réservant ma production de blé ou ma production de riz », alors qu'il y a des économies entières qui actuellement se sont construites en fait en dépendant de ces exportations de blé ou de riz. Et en fait, une des grandes leçons de ce Covid, c'est qu'il faut reterritorialiser en fait nos systèmes alimentaires pour atteindre en fait ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est la possibilité de tout un chacun et de tous les peuples de choisir leur alimentation et avoir une alimentation qui est produite localement, qui est diversifiée et qui est saine et qui ne dépend pas en fait de grandes chaînes de valeur internationales qui concrètement, en période de crise, sont absolument catastrophiques.
Reterritorialiser, ça veut dire par exemple ne plus consacrer les terres à produire du café que les villageois ne boivent pas, que les populations ne consomment pas, mais produire l'alimentation qu'elles connaissent et dont elles ont besoin localement.
Exactement. Après, on ne peut pas tout reterritorialiser. Concrètement, en France, on ne va pas pouvoir produire sur le sol français, en tout cas en France métropolitaine, notre consommation d'orange ou de café. Mais en tout cas, sur la
grande majorité... La nature ne veut pas.
Exactement. C'est concrètement ne pas faire de l'alimentation juste une marchandise comme une autre, parce que en fait, ça précarise les populations les plus vulnérables qui n'ont pas moyen d'avoir accès à cette alimentation. Et en période de crise, ça crée des situations catastrophiques. C'est ce qui s'est passé en 2008-2009, où on a eu une explosion en fait de la volatilité des prix alimentaires internationaux et la généralisation partout dans le monde des meutes de la faim.
Volatilité des marchés, ça veut dire que je peux venir trouver un prix le matin et en revenant le soir, trouver que le prix de la même denrée alimentaire a soit augmenté, soit diminué. Et cela ne fait pas les affaires des producteurs et le consommateur n'a toujours pas les moyens financiers pour suivre le marché.
On peut prendre un exemple assez concret. Au Mali, vous avez la région de Kayes, qui dépend pour sa production, je crois, de riz et de sucre des importations des deux pays voisins. Suite à la crise du Covid, le prix du kilo de sucre sur les marchés locaux, il avait presque doublé. Ça, c'est un exemple très précis et très localisé, mais au niveau international, le cours du riz, juste sur le mois de mars, il avait pris plus 10%. Parce que justement, il y avait une plus forte demande et une perturbation en fait des chaînes de valeur internationales.
Si j'ai bien compris, les prix des denrées augmentent alors que les populations ont moins de moyens financiers.
Exactement.
Ah oui, d'accord.
C'est exactement ça. Et c'est une des principales aberrations en fait qui fait que actuellement la faim elle augmente partout dans le monde. La faim, c'est un problème d'accessibilité financière.
Et le tableau d'ensemble que vous avez décrit, ça fait un peu, c'est un peu effrayant quand même.
Il y a des solutions hein, et peut-être que pour terminer comme vous dites sur une note d'espoir, des solutions elles existent au CCFD Terre Solidaire, ça fait des dizaines d'années en fait qu'on pousse pour tout avec nos partenaires pour tout ce qui est transition agroécologique. En gros, l'agroécologie, c'est à la fois un système de pratiques agricoles, mais aussi un système alimentaire qui permet de diversifier la production alimentaire, de la reterritorialiser pour créer en fait des circuits courts et une vraie plus-value pour les producteurs et pour les consommateurs, et vraiment de créer en fait une sorte de bulle alimentaire autour du marché local, autour du système de production, qui est clairement bénéfique tant pour le producteur que pour le consommateur, que pour l'environnement.
Chaque fois que je lis un rapport de ce type, et ça finit par des propositions de solutions, et la plupart sont des solutions endogènes qui existaient et qui existent déjà chez les populations locales. Je me demande, mais puisqu'on sait ce qu'il faut faire, mais pourquoi on ne le fait pas depuis tout ce temps?
Pourquoi? Mais parce qu'il y a un intérêt financier qui est énorme, en fait, à ne pas changer la donne. Je vais vous citer un exemple très concret. On a là, en 2021, le premier sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Le but de ce sommet, c'est de transformer en profondeur nos systèmes alimentaires. Actuellement, ce sommet, il est totalement trusté par les intérêts corporatistes et par les lobbies de tout ce qui va être agriculture industrielle. La société civile, et particulièrement la société civile du Sud et les organisations de producteurs, n'ont pas accès, en fait, à la préparation de ce sommet et ne sont pas pour le moment invités aux négociations. Alors que c'est leur avenir, en fait, qui se joue. Ce sont eux qui produisent l'alimentation mondiale, mais ils sont exclus, en fait, des solutions qui veulent être proposées.
Je vais essayer de comprendre. C'est-à-dire que les Nations Unies ont convoqué un sommet pour voir comment réparer les dégâts. Il se trouve que c'est ceux qui ont causé ces dégâts, qui ont tout fait pour mettre la main sur ce sommet.
Ceux qui l'ont proposé.
Voilà. Et ceux qui ont les solutions endogènes n'y ont pas accès.
Exactement.
Ben, l'être humain est vraiment désespérant.
Non, c'est pas désespérant parce que heureusement, il y a plein de solutions qui existent et les organisations de producteurs, elles se laissent absolument pas abattre. Regardez l'Europa, par exemple. C'est la première coopérative agricole et organisation de producteurs en Afrique de l'Ouest. Ce sont des millions de petits producteurs. Ils ont fait de la transition agroécologique leur fer de bataille depuis des années et ils sont en train de mettre en place dans chacun des pays d'Afrique de l'Ouest des observatoires de l'agroécologie pour former les paysans, pour éveiller la société, pour réveiller les citoyens sur ces sujets-là. Le changement, il viendra de ceux qui sont les premiers concernés.
Je vous remercie.
C'est un plaisir.
Nous étions en compagnie de Valentin Brouchard, qui est chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire à l'ONG internationale CCFD Terre Solidaire. Ce responsable associatif nous parlait de l'état de la faim dans le monde à l'occasion de la publication du rapport des Nations Unies sur l'insécurité alimentaire dans le monde, édition 2020. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.